nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. Camille Saint-Saëns n'était pas seulement le compositeur bien établi que l'on connaît, membre de l'Académie des Beaux-Arts, et auteur d'une musique d'une grande beauté, certes, mais d'un grand classicisme. Il est aussi l'auteur de pièces de théâtre, ce que l'on sait moins, et l'auteur de la toute première musique de film de l'histoire du cinéma, celle composée spécialement pour l'assassinat du duc de Guise, film de 1908, et dont nous fêtons en cette année 2008 le centenaire. Jérôme Rossi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en musicologie à la Sorbonne. Vous composez vous-même de la musique pour film ou pour documentaire filmé. Et puis vous vous intéressez de très près à ce rapport entre le son et l'image. Alors avant de commencer cette émission, je vous propose d'écouter un tout premier extrait de cette musique de film, musique de l'assassinat du duc de Guise. On écoute un extrait du troisième tableau. Jérôme Rossi, remettons peut-être la musique de ce film, la musique de l'assassinat du duc de Guise, dans son contexte, dans son histoire. À quoi ressemblaient les musiques de film ? On ne peut pas encore parler de musique de film. À quoi ressemblait l'accompagnement musical des films muets avant 1908 ?
Alors au début, la musique était jouée en dehors de la salle, dans le but en fait d'attirer le public. Ensuite, on s'est aperçu que c'était quand même très pratique, la musique à l'intérieur de la salle de cinéma, puisqu'elle couvrait le bruit de la projection, elle permettait d'isoler le spectateur de ses camarades peut-être un peu bruyants. Et puis, en fait, on s'est aperçu que la musique pouvait maintenir l'attention du spectateur. En l'isolant, elle lui permettait de se concentrer mieux, finalement, sur l'image. Il y a aussi d'autres théories, c'est par exemple ce qu'avance Adorno, comme quoi la présence de la musique dans les salles est justifiée par le fait qu'elle peut fonctionner comme antidote pour protéger le spectateur de l'effet hypnotique des images. Elle fonctionnerait un petit peu comme un élément de distanciation. Le spectateur pourrait être un peu effrayé de voir tous ces visages, tous ces masques un petit peu s'agiter comme ça, sans vie. Un autre critique que je peux citer, qui s'appelle Siegfried Krakauer, un théoricien en fait, a dit que la musique permettait aussi de restituer aux images leur vie photographique. Puisque finalement, dans le réel, le mouvement a toujours un bruit, le mouvement est toujours souligné par quelque chose. Et la musique permet d'appuyer encore plus cette illusion du mouvement.
D'autant qu'il s'agissait à l'époque de cinéma muet. Donc
Tout à fait, tout à fait. Alors, la musique était jouée soit par un pianiste qui improvisait devant l'écran, soit par un orchestre auquel un chef du département artistique, enfin un chef du petit théâtre dans lequel était donné le film, avait fait une sélection parmi ce qu'on appelait les incidentaux, en fait, un certain nombre de morceaux prévus pour illustrer la peur, pour illustrer l'angoisse, la joie, ainsi de suite. Incidentaux parmi lesquels figuraient nombre de partitions classiques déjà avant. Je pense aux très nombreux poèmes symphoniques de Liszt, de Berlioz, qui ont alimenté au début les toutes premières musiques à l'écran. Et on s'est aperçu au fur et à mesure que, et ça allait devenir une fonction très forte de la musique, c'est qu'en fait la musique, non seulement elle permettait de concentrer le spectateur sur l'image, mais en même temps elle lui donnait des indications sur ce qui se passait en fait à l'image. Elle soulignait en fait les points forts, à savoir s'il y avait un méchant, quelques pids dans le grave ou un trait éventuellement de basson permettait de donner des informations en plus. Et puis, mais de manière presque concomitante, on s'aperçoit que, oui, la musique portait une dimension au film.
Donc 1908, l'assassinat du duc de Guise, qui est notable non seulement pour, et qui est historique non seulement pour la musique de film, mais le film en lui-même aussi est une grande avancée d'un point de vue cinématographique.
Tout à fait, parce que donc le film était avant considéré comme un divertissement de foire, et à partir de 1907-1908, l'élite, on va dire l'élite culturelle, va essayer de lui donner ses lettres de noblesse. Alors c'est la création par les frères Lafitte, en 1907, de la société Les Films d'Art, la société qui va produire l'assassinat du duc de Guise. C'est également quelques semaines plus tard la création de la société cinématographique des artistes et gens de lettres, par Pathé, en fait, par les sociétés Pathé. Donc voilà, on a comme ça deux sociétés de production qui vont essayer de faire sortir le cinéma du contexte forain et surtout en prenant à la littérature des œuvres très connues, et puis en adjoignant une musique à ça.
Donc c'est le cas de l'assassinat du duc de Guise, qui est scénarisé par Henri Lavédan, qui est de l'Académie française, et qui a tiré ce film de sa propre pièce, joue dans ce film des comédiens qui sont prestigieux à l'époque. Donc c'est un film qui fait date aussi, d'un point de vue cinématographique.
Tout à fait. C'est une grande soirée qui a lieu. Alors c'est le 17 novembre, je crois, hein, 1908, à la salle Charras à Paris. Donc c'est une soirée de prestige, hein, où toute l'élite est conviée. Et effectivement, donc Charles Le Bargy, comédien de la Comédie française, pardon. Et voilà, sur un scénario d'Henri Lavedan. Scénario d'ailleurs qui va être pas mal remanié, hein, au fur et à mesure qu'on va tourner le film.
Et ce film, qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue? De point de vue de l'image, du montage.
Alors, ce film est...
De l'intrigue.
Ce film est relativement traditionnel. Alors, je peux peut-être raconter un tout petit peu ce que ce film dit, en fait. Donc, ça se passe en 1588, quand le roi Henri III décide d'assassiner le duc de Guise dans son propre château, à Blois. Et, bon, voilà, en gros, il va réussir à l'assassiner. Et on va découvrir, en fait, à la fin du film, que le duc de Guise complotait contre le roi de France. Donc tout est bien, qui finit bien, si je puis dire. Mmh. En ce qui concerne la manière de filmer, alors ça, c'est très traditionnel, hein, et c'est assez révélateur des productions de l'époque.
C'est rudimentaire.
C'est vraiment rudimentaire, c'est-à-dire qu'en fait, la caméra, on a l'impression, et c'est ce qui se passe, est fixée sur un siège de théâtre, en fait. Hein, on est toujours en plan fixe, et on change de plan quand on change de scène. À l'exception, et c'est peut-être en cela que ce film préfigure ce qui va se passer après dans le cinéma, et puis le montage par Griffith, la technique de montage, dans le quatrième tableau, en fait, la mise en scène se prête assez bien à cette technique de montage, puisque quand même dans une scène, dans un tableau, on a finalement cinq plans, on a des changements comme ça de décors successifs. On a quand même quelque chose qui est différent du théâtre, puisqu'en l'espace de 5-6 minutes, on a des changements très rapides, surtout quand le duc est précipité du cabinet jusqu'à la chambre du roi où il est assassiné. Là, on a trois plans qui s'enchaînent en l'espace de quelques secondes. Donc là, on n'est plus tout à fait quand même dans le théâtre.
Et donc là-dessus s'ajoute la musique de Saint-Saëns. On verra ensuite qu'elle ne s'ajoute pas seulement, elle accompagne ce film, et c'est en quoi cette musique de film est remarquable. Parlons un petit peu de Saint-Saëns et de la commande qui lui est faite en 1908. Saint-Saëns est alors au sommet de sa notoriété, et c'est un des plus grands représentants de la musique officielle de l'époque, on va dire. Hein. C'est un musicien qui reçoit des tas de commandes. Et puis, on en parle un tout petit peu en introduction, il s'amuse à aller dans des chemins un peu inusités pour les compositeurs. Il écrit du théâtre, il reçoit une commande de Sarah Bernhardt pour une musique de scène, pour la représentation d'Andromaque. Il commence à voyager aux États-Unis. Enfin bref, il s'ouvre à d'autres arts, il s'ouvre à... Est-ce que cette ouverture, vous pensez, a permis aussi à Camille Saint-Saëns d'être prêt pour une musique de film?
Saint-Saëns, sa grande spécificité, et d'ailleurs Debussy disait qu'il aurait dû ne faire que ça, c'est qu'il a vraiment réhabilité, il a eu un rôle énorme dans la musique de chambre. Ouais. Donc c'est vrai que Saint-Saëns restera, je pense, très renommé pour ça. Mais effectivement, bon, déjà, il a vécu quand même assez longtemps. Il s'est intéressé, je pense, à pratiquement toutes les formes d'art, jusqu'à la musique de film. C'est quelqu'un d'assez, quand même d'assez exceptionnel dans la musique française.
Extrêmement
prolixe. Donc, comme on l'a dit, il a touché à tous les genres. C'était un pianiste virtuose au départ, un excellent organiste. Hein, il a tenu pendant très longtemps l'orgue Cavaillé-Cole de l'église de la Madeleine à Paris. C'était également un très grand admirateur de Liszt.
Qui lui rendait bien,
d'ailleurs. Qui lui rendait bien, effectivement. Liszt décrivait ainsi Saint-Saëns comme le plus grand organiste au monde. Mmh. Et Saint-Saëns lui a dédicacé sa plus grande symphonie, la symphonie avec orgue.
Saint-Saëns était aussi professeur, puisqu'il a enseigné Fauré et Messager.
Tout à fait, c'était un grand professeur. Il était aussi critique musical, hein. Il a publié dans la Gazette musicale, dans la Revue Bleue. Il a aussi été, alors ça c'est peut-être un point de vue assez moderne sur Saint-Saëns, il a été l'admirateur de Berlioz, qui était quand même à son époque quand même assez critiqué, surtout oui. De Wagner aussi, également de Schumann. Je pense qu'il faut aussi retenir de Saint-Saëns, alors certains peuvent l'accuser de chauvinisme, mais il faut aussi retenir de Saint-Saëns le grand défenseur d'un art français, hein, puisqu'il crée en 1871, c'est 1871, avec Romain Bucine, la SNM, Société Nationale de Musique.
Qui défend la musique française.
Qui défend la musique française et, dont la fameuse devise est Ars Gallica. Voilà. Et grâce à cette société nationale, la nationale comme on l'appelle, il va y avoir un très grand regain à la fois du public et surtout des musiciens pour la musique de chambre. On va vraiment promouvoir ce répertoire et donner beaucoup de concerts.
Donc Camille Saint-Saëns reçoit cette commande qui est très précise, puisqu'il y a de multiples contraintes. Il faut qu'il raconte un petit peu l'intrigue, du moins qu'il l'accompagne. C'est en 5 tableaux uniquement, et le tout est assez court, 18 minutes. C'est relativement court pour Camille Saint-Saëns.
Alors, c'est court pour Camille Saint-Saëns, c'est très long finalement pour les films de l'époque, hein, puisque jusqu'à maintenant on était plutôt sur des formats assez courts, 4-5 minutes. Ça fait partie, cette longueur, fait partie du processus de légitimation qui caractérise les films de cette époque. Hein. On passe d'un cinéma forain à un cinéma culturel, on peut le dire. Et avec ce mouvement-là, les films commencent à devenir de plus en plus longs. On fait appel à des grands auteurs. Et effectivement, la musique joue un rôle dans ce processus de légitimation.
Alors, parlons de cette œuvre. Quelques instruments à cordes, un piano et un harmonium, avec un thème principal qu'on va écouter tout de suite.
Oui, je précise juste, en fait, ces cordes, bois, il y a la présence d'un corps aussi. Avec piano.
D'accord. Donc, on vous propose...
Et harmonium.
Alors, on vous propose tout d'abord d'écouter un premier thème. Le thème principal qui va revenir, qui soit un peu récurrent. Est-ce que vous pouvez nous présenter
alors,
ce thème? À quoi correspond
À quoi ressemble cette musique?
Voilà.
Saint-Saëns va se plier à une certaine discipline musicale et visuelle. Mais la musique reste... Ça reste un classicisme tout à fait très clair. Voilà. Musique... au demeurant élégante, très bien écrite, très bien instrumentée. Et il va rester fidèle avec un principe compositionnel qu'il suit dans ses propres compositions. Je pense à la symphonie avec orgue, le principe d'un thème cyclique avec un thème qui va revenir. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui marche très très bien dans la musique de film, à savoir un thème que l'on va suivre, qui fonctionne un petit peu comme un signal et qui permet aux spectateurs de suivre auditivement l'intrigue.
Et qui correspond à un personnage, un peu comme chez Wagner, ou ce sera les...
Alors là, c'est pas vraiment le cas. Ça pourrait, mais c'est pas vraiment le cas ici. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai analysé l'œuvre. Ici, on a j'ai appelé ça un thème du complot, en fait. Thème principal, thème du complot, et qui va comme ça parcourir tous les mouvements, les 5 tableaux, à l'exception du troisième. C'est le troisième d'ailleurs que l'on a écouté
au tout début de
l'émission. Ce troisième tableau est exempt de ce thème du complot. Mais on le trouve dans tous les autres.
Alors Jérôme Rossier, on va écouter le premier mouvement de cette suite pour l'assassinat du duc de Guise. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer ce que raconte...
Oui, premier mouvement de la suite et premier tableau du film.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui se passe à l'image? On est dans la chambre de la marquise de Noirmoutier. Elle est en train de se faire belle, puisqu'elle attend le duc, son amant, qui va arriver d'ailleurs à droite de l'écran, qui était dans une autre chambre. Donc là, on va assister en fait à une scène un petit peu galante. Sauf que cette scène galante va être, dès le début, un petit peu déviée de sa fonction, puisqu'il y a un page qui arrive avec une missive à l'ordre de la marquise, missive qui dit « Attention, on complote contre le duc, ne le laissez surtout pas partir. » Voilà. La marquise va lire ça. Le duc n'est pas encore entré, donc elle lit ça, elle manque de s'évanouir. Le duc entre, alors là, elle fait comme si de rien n'était, puis elle finit par le dire au duc, qui lit cette missive et qui, en bas de ce petit mot, marque « il n'oserait, le roi n'oserait pas faire ça ». Donc là, il brave le roi et en fait, à la fin de la scène, malgré la marquise de Noirmoutier qui cherche à le retenir, il part. Il part au château du roi où il va se faire effectivement assassiner. Et ensuite, la marquise reste seule.
Bon. Donc, on va écouter ce premier mouvement et puis vous allez nous commenter au fur et à mesure de la musique ce qui se passe et puis comment est-ce que Camille Saint-Saëns se débrouille entre son et image.
Entre son et image. Donc là, à l'image, on ne voit rien. L'écran est noir. C'est une introduction, une ouverture purement musicale. Un petit peu d'ailleurs dans ce qui se passe en musique de scène, la musique est seule. On arrive là bientôt sur le générique. Présentation des personnages. Les bribes thématiques motiviques que l'on a pu entendre avant préparent le thème du complot que l'on va entendre, mais pas tout de suite encore. On va arriver, là on arrive dans la chambre de la marquise de Noirmoutier et c'est le thème galant que l'on entend. Premier moment vraiment de synchronisme avec l'image, le page arrive, porteur de la missive menaçante. Et là, le thème du complot que l'on entend. Encore. Là, c'est l'effroi de la marquise. Et sa colère contre le roi, on la voit dans le film, qui agite son poing face à un tableau du roi qui trône dans la pièce. Là, c'est le thème d'amour. La marquise montre son attachement au duc. Elle tente de retenir le duc. Qu'ils ne partent pas comme les missives le marquent. Les chromatismes menaçants qu'on entend sont ici en synchronisme avec l'image. On voit un panneau où le duc rajoute à la fin du mot « il n'oserait ». Le roi n'oserait pas s'attaquer à sa personne. Voilà, on peut peut-être s'arrêter ici. Donc on a eu trois thèmes, un thème galant, un thème du complot et un thème d'amour. Et là, le duc décide de partir.
Donc Jérôme Rossi, voici donc le premier mouvement et le premier tableau. Et c'est très drôle en vous écoutant parce qu'on imagine très très bien la scène et surtout on imagine ce film muet qui est forcément un tout petit peu surjoué et où les sentiments sont exacerbés. Et vous le racontiez très très bien. Qu'est-ce qui se passe dans les deuxième et troisième tableaux ?
Alors dans le second tableau, cette fois on est dans la chambre du roi, donc du roi Henri III, qui est songeur, qui est soucieux, mélancolique. Donc là, on a à nouveau un nouveau thème, hein, le thème de la mélancolie du roi. Et il discute avec son conseiller et il échafaude son plan d'assassinat avec son conseiller. Et puis, au fur et à mesure, rentrent les gardes qui vont être les acteurs du meurtre, de l'assassinat. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où les gardes arrivent, on entend le thème du complot. Hein, ce thème qui, comme ça, va un petit peu rythmer tout le film. Et puis, à la fin du tableau, le conseiller aperçoit le duc qui va bientôt entrer. Il l'aperçoit par la fenêtre. Et là, on a un grand mouvement de joie parmi les gardes qui s'impatientent de montrer leur habileté avec leurs épées. Voilà, on aboutit ensuite au troisième tableau. Là, c'est l'entrée du duc, non pas tout de suite dans la chambre du roi, mais d'abord dans l'espace un peu mondain. Donc, c'est le thème que l'on a écouté au tout début. Donc là, on a un nouveau thème. On peut appeler ça un thème mondain, en quelque sorte. Donc là, on a une musique, finalement, qui n'a pas besoin d'être vraiment à l'image. Et c'est peut-être le seul moment où Saint-Saëns développe un petit peu un thème. On a des petites imitations. Par contre, à la fin, à peu près à 2 minutes, des trémolos dans le grave du piano annoncent le moment où le duc va être appelé pour aller rejoindre le roi dans sa chambre. Mmh. Donc là, le danger est signifié de manière musicale, de manière très descriptive.
Donc on arrive au quatrième tableau.
Et on arrive, voilà, au quatrième tableau.
Et est-ce que vous voulez bien refaire cet exercice d'écouter la musique dans vos oreilles au casque?
Tout à fait.
Et puis, vous nous commentez cette musique par-dessus.
Là, vraiment, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec vraiment la musique à l'image, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de points vraiment de synchronisme. Et ça montre l'habileté de Saint-Saëns dans cet exercice.
Mmh. Il invente le genre, en fait.
En quelque sorte, oui, on peut vraiment le considérer là comme un authentique pionnier. Finalement, entre l'image et la musique, Saint-Saëns se montre plus moderne, plus pionnier de ce que va devenir le cinéma quelques années plus tard.
Alors on écoute ce quatrième mouvement.
Cet accord brutal, c'est l'entrée du duc dans la chambre du roi. Le roi est caché et c'est le conseiller qui l'accueille. Et alors là, on écoute cette musique, Saint-Saëns installe un suspense là, avec une rythmique aux cordes comme ça. Le duc se demande un peu ce qui lui arrive. Le conseiller fait montre d'amabilité auprès de lui et va l'inviter en fait à passer dans l'antichambre du cabinet. En termes de suspense, c'est très très bon. Hein. Faut souligner aussi au niveau de l'instrumentation la doublure piano et cordes graves. Donc, le duc va maintenant arriver dans le cabinet, où là l'attendent une compagnie, enfin les gardes qui vont l'assassiner, mais qui pour l'instant plaisantent et font comme si de rien n'était. Là, cette musique chromatique, on sent le malaise qui commence à monter. Le duc n'en peut plus et là, il va faire mine de partir. Il s'apprête à partir. Et là, les gardes le prennent d'assaut. Et au fur et à mesure, le duc est entraîné avec donc les plans rapides qu'on disait tout à l'heure, les plans qui s'enchaînent. Il revient dans la chambre du roi, parce que le roi, au départ, avait exigé qu'il soit assassiné dans sa chambre pour l'avoir devant son lit. Donc là, figuralisme de la chute, on part de l'aigu, on va dans le grave, où la musique va s'apaiser petit à petit. Voilà, là désormais le duc gît à terre. Là, Henri III arrive, sort de sa cachette, il était caché dans son lit, pour s'assurer que le duc est bien mort. Il lui met un petit miroir devant la bouche pour vérifier qu'il ne respire plus. On entend le thème du complot, là. Ce thème du complot, joué à la clarinette, accompagne le panneau visuel où il y a marqué cette grande réplique du roi Henri III, « Il est encore plus grand mort que vivant ». Peut terminer là-dessus. Là, c'est le violon qui joue le thème du complot.
Et que se passe-t-il à la fin de ce quatrième tableau et puis le final, le cinquième tableau ?
Le duc est mort, il gît à terre, et en fait, au fur et à mesure, les gardes vont peu à peu laisser le roi seul contempler son la personne qu'il vient d'assassiner.
Son acte.
À noter quand même que l'un des gardes a trouvé un papier dans les poches du duc, papier qui révèle que le duc était un traître. Hein, donc voilà, c'est ce que
le
je disais tout à l'heure.
Ouais.
Voilà, le roi avait bien fait. À la fin, c'est assez intéressant, d'un point de vue instrumental, on n'a plus qu'un harmonium. C'est un harmonium qui termine le tableau. Et là, on voit à l'image, de manière tout à fait adaptée, le roi qui fait une prière pour le duc. Voilà. On arrive ensuite dans le dernier tableau, cinquième et dernier tableau, et là ça a lieu dans la salle du corps de garde, c'est tout en une salle en bas du château avec une grande cheminée qui trône au milieu, et là en fait on va brûler le corps du duc. Et juste dans les 30 dernières secondes, c'est pour faire un grand final. Alors là, on rejoint un petit peu ce que vous disiez en parlant de grands mouvements un petit peu surjoués. Il y a la marquise que l'on avait vue au premier tableau. On ne sait pas trop comment, mais elle revient. Et puis elle joue en fait la femme éplorée, dont l'amant vient d'être assassiné. Et on termine en fanfare avec un grand final à la Saint-Saëns, une grosse cadence qui ponctue tout ça.
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette musique de film, particulièrement à la lumière de ce qui va être composé par la suite ? En quoi est-ce que Saint-Saëns pose des jalons de ce que va être la musique de film ?
Alors, ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est de constater déjà que Saint-Saëns est forcé de s'éloigner de ses propres canons de composition, en fait. Hein. Mmh. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit peu de développement quand même dans le troisième mouvement, parce que justement, il n'y a pas de moment de synchronisme dans ce troisième tableau. Mais sinon, dans tous les moments où il faut qu'il soit à l'image, là, il développe très très peu. Il ne fait pas non plus de variations développantes, il renonce aussi aux cadences. L'obligation, en fait, de suivre l'image au plus près l'oblige à renoncer à sa science, en quelque sorte. Et du coup, comme la musique ne peut plus tout à fait se développer par rapport à ses propres lois, Saint-Saëns va devoir chercher une autre manière de l'organiser. Et en fait, ce qu'on voit, ce qui n'est pas du tout dans l'esthétique de Saint-Saëns, c'est qu'on voit ici une profusion thématique incroyable. Au premier tableau, on a trois thèmes, je crois. Hein. Je vous parlais de trois thèmes. Au second tableau, on a le thème du roi. Troisième tableau, on a un thème, le thème mondain. Au quatrième tableau, on a deux thèmes de suspense. Un premier au début, celui qu'on a entendu, là, avec une rythmique aux cordes. Mais il y en a un autre qui vient à la fin. Et le cinquième tableau récapitule un petit peu plusieurs de ces thèmes. Mais on a quand même une profusion thématique qui est exceptionnelle dans l'esthétique de Saint-Saëns. Donc, c'est bien, à mon avis, cette profusion de thèmes qui caractérise la partition, associée à un sens dramatique aigu que Saint-Saëns a pu cultiver dans ses nombreux poèmes symphoniques, sa musique de scène, ses très nombreux opéras. Et puis, on peut aussi dire que là, il démontre sa science de l'orchestration, de l'instrumentation, avec une petite formation, mais qui sonne extrêmement bien, qui sonne aussi bien qu'un grand orchestre. Concernant la suite, en fait, qu'est-ce que Saint-Saëns a apporté dans l'histoire en fait de la musique de film? Cette première organisée par le film d'art va hanter tous les esprits, et ensuite pour toutes les productions importantes, on organisera des grandes soirées comme ça à Paris, des grandes premières, à l'occasion desquelles un compositeur sera convié à écrire de grandes partitions. Mmh. On a par exemple Darius Milhaud, qui va composer en 1925 une partition pour L'Inhumaine, un film de Marcel Lherbier. La même année, 1925, Florent Schmitt, un des très grands compositeurs, écrit un grand accompagnement musical pour Salambo, dont il va tirer trois suites. On a également la collaboration un an avant, en 1924, entre Eric Satie et René Clair pour le court-métrage burlesque Entr'acte. Donc, de plus en plus, à l'occasion de grandes soirées un petit peu événementielles, comme ça, on fera appel à des compositeurs. Le problème, en fait...
Et la musique de film rentre réellement dans le Panthéon, enfin, dans le Panthéon peut-être pas, mais dans le répertoire de vraie musique.
C'est-à-dire qu'on commence, en fait, de plus en plus à penser le cinéma, c'est notamment le, le critique Canudo qui commence à formuler ça, c'est-à-dire le cinéma comme synthèse de tous les arts, ce qu'il lui-même a appelé dans son manifeste de cet art, le septième art en fait. Et c'est vrai que la musique, des scénarios écrits par des écrivains, concourt à effectivement à créer le septième art.
Voilà. Alors ce qui est assez amusant à dire un peu en conclusion, c'est que la musique de Saint-Saëns, à part la suite, un peu ironie de l'histoire, est souvent reprise dans des films.
Oui, tout à fait. C'est la seule musique que Saint-Saëns a vraiment écrite. Mais finalement, cette musique très colorée, très claire, marche très bien avec l'image. Et Saint-Saëns a eu une postérité tout à fait méritée et éclatante dans la musique de film. Par exemple, le mouvement Aquarium, qui est extrait du Carnaval des animaux, est utilisé dans l'introduction du dessin animé La Belle et la Bête, des studios Disney. Il est également utilisé comme thème principal du film de Terrence Malick, Les Moissons du Ciel. Amusant aussi de constater que toujours ce même thème, donc ce même morceau, l'aquarium, est présent avant chaque diffusion du film dans la salle du Palais des Festivals à Cannes. Voilà. Le final de ce Carnaval des animaux a été repris pour une séquence avec des flamants roses dans le dessin animé Fantasia 2000. D'autres morceaux, on a la danse macabre, par exemple, qui a été énormément reprise dans La Règle du jeu, de Jean Renoir, où elle est jouée par un piano mécanique. Elle a également été utilisée, alors là, très récemment, dans le film d'animation Shrek, dans le numéro 3. Voilà, on pourra encore en citer d'autres, la Havanaise, pour violon et orchestre, dans La Neuvième Porte de Polanski. Donc Saint-Saëns a eu une postérité dans la musique de film.
Merci beaucoup Jérôme Rossi pour cette émission, c'était très intéressant. Merci beaucoup, bonne journée, bonne continuation.
Merci à vous.